Je peux le dire, j'aime mon église passée et mon église qui me soutient dans la prière et où j'ai grandi. Puis aussi, je suis content aussi de pouvoir dire que depuis maintenant 6 ans que je suis là-bas à Saint-Anne-des-Monts et de plus en plus ça va, plus j'aime mon église aussi là-bas à Saint-Anne-des-Monts et de développer cet amour-là pour notre église locale, c'est quelque chose de c'est ça. Tu sais, quand il n'y a pas de mots, là. Les doctrines de l'Église, qu'est-ce que l'Église? L'Église a un corps, l'Église, ces membres-là, comme Benoît disait, ces petits fils-là qui relient chacun d'entre nous, qui font qu'on est tous unis ensemble, peu importe. Oui, il y a l'Église locale, mais je veux dire, les fils sont longs. J'ai fait 600 kilomètres, puis le fil, il ne s'est pas brisé. Je veux dire, les fils se relient d'une église à l'autre, d'une dénomination à l'autre. C'est le corps de Christ, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'indescriptible. Encore là, je dis, là. C'est ça. Que vous alliez n'importe où dans le monde, que vous alliez d'un autre pays, vous rencontrez des frères et sœurs en Christ, ce fil-là est encore là, puis il y a des liens qui sont là. Puis ces liens-là, c'est les liens d'amour, les liens du Saint-Esprit. J'aime mon Église, donc. Vous avez commencé cette série-là et je vais embarquer dedans. Même si j'étais pas là, ben, il y a ces choses qu'on appelle l'Internet et les messages enregistrés. Donc, j'ai écouté les messages précédents de la série. Et le thème que j'ai ce matin, c'est « J'aime mon Église, donc j'aime servir ». Une des distinctions de la Nouvelle Alliance sur l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, Dieu avait choisi un peuple pour le représenter sur terre. Et de ce peuple, il avait choisi une tribu pour le servir. Mais on a dans le Nouveau Testament à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son peuple. Des sacrificateurs. Benoît, Trévard, ça c'est eux autres, c'est les sacrificateurs. Chacun de nous. Chacun de nous, un sacrificateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui offre à Dieu un sacrifice. Et on a parlé d'adoration ce matin, un sacrifice d'adoration, un sacrifice de lèvres qui loue le nom du Seigneur. Sacrifice de nos vies, sacrifice de notre temps, sacrifice de notre énergie. Et j'aime servir. Rentre là-dedans. C'est « j'aime faire ce que je suis destiné pour faire ». Dieu a fait de moi un sacrificateur, donc j'aime faire ce que Dieu a fait de moi. Et Dieu, il m'a sauvé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. C'est dans notre ADN de chrétien. Quand on est sauvé, on est dans l'épître de Jean présentement, puis ça dit « on est né de Dieu ». On est joint, je veux dire, c'est né. Bon, j'ai 4 enfants. Si vous les avez pas vus, puis vous les voyez passer, vous allez les reconnaître, ils me ressemblent tous. Puis avec un peu de mélange de Mélanie, c'est sûr, là. Mais je veux dire, c'est dans leur ADN, là. Ça passe de père en fils. C'est cette ressemblance-là. Puis, quand on est né de Dieu, l'amour de Dieu a passé dans notre ADN. Et aussi, ce désir-là de servir passe dans notre ADN. À ce temps, qu'est-ce qu'on en fait avec notre ADN? Est-ce qu'on essaie d'être quelqu'un d'autre qu'on est vraiment? Des fois, on joue à l'acteur un peu, puis des fois, on se trompe nous-mêmes dans nos faux raisonnements. Les deux passages que j'ai pour vous ce matin, on va les lire maintenant. C'est dans 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Et ensuite, Romains 12, 1 à 16. Je vais vous demander juste de tourner dans ces passages-là, puis quand on va tourner, mettez de quoi dedans, parce qu'on va se promener entre les deux au cours du message. 1 Pierre 4, 10 et 11, mais j'aimerais qu'on commence au verset 7. Ça dit, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, dans Romains 12, un passage qu'on connaît tous, particulièrement les deux premiers versets, mais la suite parle, tout ce passage-là parle de service. Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On a parlé qu'on était des sacrificateurs, et ici, voilà un des cultes du sacrificateur. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et on va prier. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole qui nous enseigne, qui nous corrige, qui nous instruit et qui veut faire de nous des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont prêts à ton service. Et on te prie de guider, Seigneur, guide ma bouche, que je puisse vraiment dire ce que tu veux que je dise. Puis, Seigneur, par ton esprit, travaille dans nos cœurs. Ton nom, Jésus, qu'on t'en prie. Amen. Un beau passage, une belle série de versets. Je ne ferai pas une étude mot par mot de ces deux passages-là, parce que ce n'est pas le temps qu'on m'a alloué. Mais on va regarder plus précisément des thèmes par rapport au service. Et premièrement, le service découle de l'amour. Je veux dire, le service selon Dieu, le service selon la Bible, le service chrétien, le service qui plaît à Dieu, découle de l'amour. Est-ce que c'est possible de servir sans amour? Eh oui, bonne réponse. Mais le service qui plaît à Dieu découle de l'amour. C'est pas quelque chose qu'on fait par... Il faut que je le fasse, là, puis il faut que je fasse ça. Lui, ça m'énerve, mais je suis obligé de faire ça. Non, ça, c'est pas du service pour Dieu. Ça, c'est juste faire de quoi. 1 Pierre 4:8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Vous avez vu, il y a 2 semaines, j'aime mon Église, donc j'aime mon frère. C'est bien ça? C'est la base. C'est la base de la vie chrétienne, c'est la base sur quoi toute la vie chrétienne va découler ensuite. Si vous scrapez cette base-là, vous scrapez votre vie chrétienne. Je veux dire, il n'y a plus d'autre chose après. OK, oui, mais moi j'ai une relation avec Dieu. Moi, c'est entre moi et puis Dieu, c'est entre moi et puis Dieu. Toutes les exhortations dans la Bible qui nous parlent de grandir dans la foi, d'être rempli du Saint-Esprit et de servir le Seigneur parlent au collectif. Moi puis Dieu, là, OK, il faut être sauvé. Mais la vie chrétienne ne sera pas bien riche. Il n'y aura pas bien de croissance. La vie chrétienne se vit en Église et se vit aussi en amour. Ayez avant tout un ardent amour. J'aime le mot. Je veux dire, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous, qu'on a chanté. Ardent parle de ça brûle. Un amour qui brûle. On a tous déjà peut-être vécu ça avec quelqu'un de spécial ou un petit feu qui brûlait en dedans. Mais ce feu-là, on doit l'avoir pour Dieu, mais aussi pour nos frères et sœurs, pour nos frères et sœurs en Christ. Romains 12, 9 et 10, « Que l'amour soit sans hypocrisie. » C'est quoi un amour hypocrite? C'est quoi ça veut dire, ça? Ah oui, je t'aime. C'est facile, la Bible nous met en garde contre des paroles qui n'ont pas de pattes. Je t'aime, mais ça ne change absolument rien dans ma manière de te traiter. Ça ne change absolument rien dans la manière que je pense de toi, mais je te dis que je t'aime et je peux même faire semblant de t'aimer quand je suis devant les autres ou quand les autres me voient. Que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour, c'est, moi, je pense qu'on va y aller tout à l'heure dans le passage. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Plein d'affection les uns pour les autres. Pas juste, aimez-vous un petit peu, là. Non, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Je veux dire, quand on recule dans le temps, où ce que les commandements de s'aimer les uns les autres ont été donnés, on étudie les épîtres de Jean, comme je disais tout à l'heure, puis il parle de comment le monde va vous haïr, comment vous allez être rejeté à cause de Jésus, puis ces affaires-là. Mais tout de suite après, là, c'est dans ces contextes-là qu'il dit « aimez-vous les uns les autres ». Vous avez vous autres. Vous avez des liens qui vous unissent, même si le monde entier serait contre l'Église de Jésus-Christ. Ce noyau-là reste collé. Vous avez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Restez collés les uns aux autres. Apprenez les uns des autres. Enseignez-vous les uns les autres. Et si on pourrait aller avec tous les uns les autres de la Bible. Mais soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ça, c'est de l'amour. Et par honneur, usez de prévenance réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, prévenance réciproque? Et c'est prendre soin avant même des fois que l'autre le demande. C'est d'aller au-devant. De ne pas juste attendre, dire « Ah, ben moi, je fais rien pour les autres parce qu'il n'y a personne qui m'a demandé rien. » Il ne m'a pas demandé de venir l'aider, là. Puis on peut prendre l'histoire du bon samaritain. On a un frère à notre assemblée qui est en quadriporteur, qui a une forme de taxi. Puis il dit, je m'occupe d'aller le chercher pour l'amener à l'église les mercredis soirs. Puis il me racontait qu'à un moment donné, il était en plein milieu de Saint-Anne-des-Monts. Puis son quadriporteur a comme passé sur le bord du trottoir. Puis il a resté pendant un bout, là. Les chars passaient, puis il a regardé, il était pris là avec le quadriporteur penché sur le bord de la route. Puis quelqu'un d'autre va le faire. C'est-tu de même qu'on use de prévenance réciproque? C'est tout de même quand on voit un frère qui est dans le besoin. Ah, ben là, il est dans le besoin, mais il ne m'a pas demandé. Je ne veux pas l'aider. Un jour, je veux pas qu'il se sente comme je le dérange. Allez, prendre les devants. Servir le Seigneur. Et cette notion-là de servir le Seigneur. Vous savez, ceux qui sont déjà allés chez mes parents, dans les escaliers, là, tu rentres dans la maison, puis c'est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est un peu une devise dans la famille. Servir l'Éternel, comment on fait ça? Je veux dire, je vais aller l'y aider, moi, à Dieu, en haut. Il a besoin d'aide, on va le servir. Là. Comment on fait ça? Y a-t-il moyen de servir l'Éternel? Servir son corps. Servir les uns les autres. Quand la seule manière de pouvoir servir l'Éternel, c'est de servir les frères et sœurs. Jésus l'a dit, celui qui apporte un verre d'eau à l'un de ses petits parce qu'il croit en moi, c'est à moi qu'il le fait. Il dit, quand vous allez venir, il dit, vous m'avez vu pauvre, vous m'avez vu orphelin, vous m'avez vu nu, puis vous n'avez rien fait. Il dit, mais non, on ne t'a jamais vu de même. Mais non, regarde, vous avez vu des frères et sœurs dans cette situation-là, puis vous n'avez rien fait. Parce que la seule manière de servir le Seigneur, c'est de servir les frères et sœurs dans l'Église. Usez de provenance réciproque. Le passage que je voulais qu'on tourne dans 1 Jean 3, 16, on le connaît. Là, on fait juste mettre un petit 1 en avant. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ce passage-là vient un peu parler de quand il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Hypocrite de dire « je l'aime bien, mais je ne ferai jamais rien pour lui ». Non, on ne le dit pas. Non, on ne dirait pas ça, mais on le fait. C'est, je ne ferai jamais rien, moi je ne le fais pas. Le service, selon Dieu, découle de l'amour. Deuxièmement, le service, selon Dieu, découle de l'humilité. Est-ce que c'est possible de servir sans humilité? Eh oui. Mais y en a-tu qui ont remarqué un petit dessin sur mon PowerPoint? Je l'ai mis bien caché, là, parce que tu sais, c'est... Je ne voulais pas que ça soit trop évident, mais c'est parce que ça ne se remarque pas d'où vient une fois l'humilité. Mais on a le plus grand exemple d'humilité. Jésus, quand il était avec ses disciples, maître, Seigneur, c'est lui le maître, c'est lui le boss, c'est lui le Messie, c'est lui le Christ. C'est nous autres qui va le servir. Puis Jésus, il se met à quatre pattes en avant de ses disciples, puis il lave les orteils. Il lui lave les pieds. L'humilité. Puis il dit après ça, c'est moi qui lave les pieds, puis je vous ai montré là que c'est moi qui lave les pieds. C'est ça qu'il a dit? Il dit, faites ça vous autres aussi. Faites-le vous autres aussi. Je vous ai donné un exemple afin que vous le suiviez. Le service découle de l'humilité. Romains 12, verset 3, dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Et la majorité des problèmes vient de quand je pense que je suis bon. Et dans le service, c'est la même chose. On avait lu tout à l'heure dans Pierre, la fin du passage dans Pierre. Le service est pour la gloire de Dieu. Puis quand on veut servir pour la gloire de moi, parce que moi je suis bon, parce que moi je suis capable de faire ces choses-là, parce que moi j'ai les capacités, puis les autres ne les ont pas, fait que moi je les fais, c'est pas servir Dieu ça. C'est même pas servir les autres. C'est servir moi. Parce que moi je fais ces choses-là pour que les autres me voient moi et qu'ils voient que moi je suis capable de faire ça et que moi j'ai la gloire. Ça c'est pas servir. C'est profiter d'une opportunité pour bien paraître. Ce n'est pas servir non plus. N'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Philippiens 2, 3 à 7, où ce qui parle de l'exemple ultime de notre Sauveur. Ça dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Passage-là, super de belles vérités sur la personne de Dieu, mais à la base, ce passage-là, il est une instruction pour nous. Il dit, vous voyez comment Dieu est parti de haut puis il s'est abaissé pour pouvoir servir. Le Fils de l'homme est venu, bon, pour être servi, mais pour servir. Bien, vous voyez les grands écarts, là? Lui, Dieu, pour servir, puis même comme on a l'image, à genoux, à quatre pattes, en avant de ses disciples. C'est l'image que je veux que vous fassiez. Peu importe comment haut que vous pensez que vous êtes. Puis souvent, c'est le cas, c'est nous autres qui pensent qu'on est haut, c'est pas nécessairement les autres qui pensent qu'on est haut. On se pense toujours un peu plus haut. Il dit, regarde, débarquez de votre estrade un peu. Là. Descendez, un peu comme quand on travaille avec les enfants. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux parler à un enfant? Bonjour, mon petit. Tu te mets pour avoir l'air plus haut? C'était drôle, une anecdote avec Théa, justement, à la conférence. Théa me regardait, puis elle pointait les tables de livres où ce que son papa travaillait, puis elle dit « Papa, papa, papa! » Puis là, moi, je voulais parler avec un peu, fait que là, je me mets à son niveau de même pour y parler. Puis elle fait la même affaire, elle se baisse. Fait que je dis, bon, je me coucherai pas à quatre pattes à terre. Mais s'abaisser pour aider les autres. Même des fois, si ça peut... Ah, mais là, c'est hors de ma zone de confort. Là. C'est hors de. Je veux dire, il ne faudrait pas que trop personne me voie faire ça. Là. Non. Servir. C'est une job de serviteur. Oups, il n'a pas voulu avancer. Servir, vient de Dieu. Servir vient de Dieu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous est passé dans notre ADN de chrétien, de nouvelle créature. En tant que chrétien, ça ne vient pas de nous autres mêmes. De nous autres mêmes, là, ce qu'on veut faire, c'est servir pour bien paraître. Faire des œuvres dans le but d'avoir un certain avantage à l'arrière. Quand on sert le Seigneur, quand on sert les frères et sœurs selon Dieu, c'est selon Dieu, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous pousse, c'est Dieu qui nous équipe. Et c'est ce qu'on a dans ces passages-là. C'est une grâce de Dieu qu'on voit dans Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Pierre 4 dit, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. » Dieu nous a fait grâce, oui, de son salut. Il aurait pu rester là, dire, « On est sauvé, on s'en va au ciel, tiguidou, c'est fini. » Mais il a voulu qu'on reste sur la terre, puis qu'on vive au travers du monde, qu'on soit une lumière au travers du monde. Mais comment qu'on peut être une lumière au travers du monde? Mais il dit, le monde va savoir que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Puis comment qu'ils vont savoir que vous avez de l'amour les uns pour les autres? Parce que vous le dites? Non, parce que vous vous servez. Vous vous servez les uns les autres. Puis là, ils vont voir, ouais, t'as une minute, là. Mais Dieu nous a mis ça, il nous a laissé sur terre pour ça. Mais en plus, il nous a fait grâce de le servir. C'est un cadeau que Dieu nous a fait, et diverses grâces, c'est tous des cadeaux que Dieu fait. Et on parle maintenant de dons, les capacités que Dieu nous donne. Et là, je pourrais faire un message complet sur les dons. Je pourrais parler de toutes les sortes de dons qui sont présentés, les différentes listes de dons qu'il y a dans le Nouveau Testament, et je pourrais vous faire remplir un petit formulaire sur comment trouver vos dons. Quand on parle de dons, je résume ça plus simplement que ça. Dans 1 Pierre 4, 10, on vient de le lire justement. Romains 12, 4 à 6, il en parle justement, encore une fois, des dons. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ok, ça nous indique un peu, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui, et bon, on va le voir tout à l'heure, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Ma définition des dons, c'est Dieu a équipé chacun de ses enfants pour le servir d'une manière unique et particulière. Vous savez, veux-tu te dire, c'est quoi Simon-Pierre, tes dons? C'est le don de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. J'ai pas vu dans le Nouveau Testament les apôtres, les disciples en train de chercher leurs dons. Je les ai vus obéir à Dieu. Puis d'une manière surnaturelle, Dieu les équipait pour faire ce qu'il leur demandait de faire. Dieu les dirigeait, Dieu les poussait à aller des endroits, Dieu les poussait à aller accomplir des choses. Puis tout d'un coup, ils savaient le faire. Puis c'est les dons que Dieu donne. Puis les dons que Dieu donne, Dieu les donne pour sa gloire. Je veux dire, Dieu prendra souvent la manière que Dieu marche, c'est qu'il prend nos faiblesses. Il prend nos faiblesses, puis là, dans notre faiblesse, on arrive, puis Dieu, il nous équipe d'une manière surnaturelle. Il dit, hein? Voyons, je dis, ce qui était ma faiblesse est devenu ma force. Puis c'est pour sa gloire. C'est pour justement que tu puisses te regarder en arrière ce que tu viens d'accomplir, puis tu dises, mais c'est pas moi là, qui aurais pu faire ça, c'est Dieu, puis gloire à Dieu. Dieu nous équipe chacun de ses enfants. Combien d'entre vous n'ont pas de dons? Tout le monde. Chacun. Il parle de chacun des chrétiens. Combien d'entre vous ne savent pas c'est quoi votre don? Ça se peut, il y a d'habitude la réponse, elle répond plus de monde qui disent « je ne sais pas trop ». Mais tu as le don de faire ce que Dieu te demande de faire. Vous êtes devant, face à une décision. Dieu, vous sentez que Dieu vous pousse à faire quelque chose. Il vous met sur votre chemin une œuvre que vous avez l'impression de dire, regarde, Dieu, il a préparé cette œuvre-là d'avance pour moi. Il me semble que ça n'arrête pas de me chicoter. Dieu veut que je le fasse, mais je ne suis pas capable. Erreur. Si Dieu est en train de te pousser à le faire, c'est qu'il t'a équipé pour le faire. Puis peut-être que tu ne le sais pas tout de suite. Mais tu vas t'en rendre compte après, puis toute la gloire va aller à Dieu parce que tu vas l'avoir faite, mais pas par tes propres forces. par sa force et par les dons qu'il va t'avoir donnés. C'est mon résumé de tous les paquets de chapitres qui parlent des dons. Les dons aussi ont été donnés pour les uns les autres. Pour mettre, comme on l'a vu, mettre au service de Dieu. Les règles du service. C'est quoi les règles? Servir Dieu, c'est n'importe quoi? Non. On a quelques exemples dans les passages qu'on a devant nous, dans 1 Pierre 4, 10 et 11. Il dit, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Ici, on a comme de bons dispensateurs, des administrateurs de ce que Dieu nous a donné. Comme je dis, Dieu nous a donné ce qu'on avait besoin pour le servir. Vous êtes en train de réparer votre char, puis là, maintenant, vous avez un Volkswagen. Puis dans votre coffre à outils, il n'y a pas les outils faits pour Volkswagen. Ça m'arrive. Les outils de Volkswagen, c'est complètement différent. Puis là, quelqu'un arrive, il te donne le bon outil. Il dit, non, je vais continuer de taponner. Non, regarde, Dieu t'a donné ce que tu avais besoin. À cette heure, qu'est-ce qu'on fait quand tu as ce que tu as besoin? On l'utilise. On est des bons dispensateurs, des bons économes, des bons utilisateurs, des bons administrateurs de ce que Dieu nous donne. Et ce qu'il nous donne, c'est pour le service des autres. Si je prends ce qu'il m'a donné, puis je l'utilise juste pour moi, puis pour bien paraître, puis pour ma gloire, puis pour ma prospérité, et je vais utiliser mon don d'enseignement pour me faire une fortune, et pour manipuler les gens, et etc. Si je fais ça autre que pour servir les autres, je suis en train d'être un très mauvais administrateur de ce que Dieu m'a donné. Dieu veut qu'on se serve de ce qu'il nous a donné pour les autres, pas pour nous autres-mêmes. Dieu veut qu'on se serve de ce qu'il a donné. On veut qu'on soit des bons administrateurs des diverses grâces de Dieu selon la parole de Dieu. Il l'utilise ici pour les dons de parole, ceux qui prennent la parole. Il dit, « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. » Si vous prenez la parole, si vous enseignez la parole de Dieu, attention, la Bible dit on va être jugé plus sévèrement. Pourquoi? Sévèrement sur quoi? Sur notre ton de voix, sur notre, nos manières en avant, sur nos expressions, sur notre habillement? Non! Ce que tu as dit, c'était-tu ton opinion? Es-tu en train d'induire les gens en erreur? C'est-tu la parole de Dieu que tu enseignes? En es-tu sûr? As-tu pris le temps de vérifier? Si tu enseignes. Et ça, je veux dire, c'est pour ceux qui sont en avant. C'est pour ceux qui sont dans les chambres en haut, en train d'enseigner les enfants. C'est pour quand vous parlez les uns aux autres, pour vous encourager, pour vous édifier. C'est les dons de parole quand on écrit des commentaires sur Facebook pour encourager des chrétiens. Ça arrive des fois qu'on reçoit des commentaires venant de chrétiens, puis on se dit, « Ouf, ils ont des petits devoirs à faire dans la parole de Dieu parce que leur encouragement qu'ils viennent de nous donner est complètement loin de ce que la Bible enseigne. » Si vous voulez utiliser la parole, que ce soit écrit ou en parole, pour édifier, au service des autres, assurez-vous que ça vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est l'autorité. C'est ça qui est... Si je veux servir Dieu en comptant des menteries à propos de ce que Dieu dit, est-ce que je suis en train de servir Dieu? Non. Par la force de Dieu qu'on voit aussi. Il dit, si quelqu'un remplit un ministère, c'est service. C'est pas comme les ministères au gouvernement, là. Ministère, le mot ministère veut dire service. Si quelqu'un sert, de quelque manière que ce soit, même laver le plancher, que toi, que tout ce que tu fais, tu le fasses pas par je le fais parce que je suis capable. Là. Puis si les autres le font pas, c'est parce qu'ils sont pas capables, mais moi je le suis. Non, c'est pas ta force, c'est la force que Dieu donne. La force d'être capable de passer au travers. Je veux dire, je suis directeur de camp. Et j'ai le don de directeur de camp. Comme je disais, tu es équipé pour ce que Dieu veut te demander de faire. Puis ça arrive des fois que le monde il dit « Comment tu fais ça? » Je veux dire, pour te lever le premier, puis te coucher le plus tard, puis travailler pendant des semaines de temps sans arrêter. Je dis, non, regarde, c'est la force que Dieu donne. C'est Dieu qui me pousse, puis qui, pendant ces semaines-là, je veux dire, l'énergie vient pas de moi, ni du café. Ça vient de Dieu. Le café joue un petit peu. Mais en tout cas... Dieu, il nous donne une force des fois qui dépasse l'entendement. pour accomplir ses œuvres. Lisez des biographies de personnes qui sont allées à l'œuvre pour Dieu, qui sont allées en mission, qui ont fait des choses extraordinaires. Ce n'est pas parce que c'était du monde extraordinaire, c'est parce qu'il y avait la force de Dieu. Gédéon, dans l'histoire de Gédéon, il dit, je ne suis pas capable, je suis pas, va avec cette force que tu as. Oui, mais je ne suis pas capable, mais je vais être avec toi. Dieu dit, je vais être avec toi, puis ça va être moi, ta force. La force de Dieu qui permet de le servir. Combien d'entre vous peuvent dire, j'ai pas la force de servir? Combien d'entre vous peuvent dire, même avec Dieu, j'ai pas la force de servir? On ne peut pas dire ça. Les règles du service pour la gloire de Dieu. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Si, et là je dirais, des fois, on a des passages en Bible qui parlent de monde qui convoite puis de la jalousie dans les dons pour avoir ceux-là qui paraissent le plus. C'est d'être en avant, d'être en train de jouer de la musique, d'être en train de... Je veux dire, c'est le plus dangereux des dons, c'est ceux-là qui sont en avant sur le stage ou qui sont parus, qui paraissent devant les hommes. Et des fois, Dieu a fallu qu'il m'arrête. Une petite anecdote, je suis allé à l'école biblique, il y a de ça plusieurs années. Le temps passe vite. Mais quand j'étais tout petit et en grandissant, quand j'étais ado, je chantais dans la chorale. Et je chantais. J'étais quand même bon. Et j'étais allé à l'école biblique, puis à l'école biblique, il y a la chorale aussi. Puis je me rappelle voyager en m'en allant à l'école biblique, je m'imaginais comment ça allait être de chanter dans la chorale de l'école biblique, puis comment probablement qu'elle allait me prendre pour des solos, puis comment, etc. Oui, c'est ça. J'étais arrivé à l'école biblique, j'ai passé aux auditions, puis ils m'ont refusé. Ouch! Savez-vous que j'avais besoin de ça pour apprendre que c'est pas parce que je suis bon que Dieu va m'utiliser. Il va m'utiliser quand il va le vouloir, puis ça sera pas pour que je puisse dire que je suis bon, c'est pour pouvoir dire que lui, il est bon, puis que lui, il est grand. Plus tard, après un an d'apprentissage que, faut que j'apprenne, Dieu m'a réutilisé dans des groupes de chant. Puis j'ai eu des super de belles expériences avec ça. Mais il a fallu que j'apprenne, puis que je me cogne le nez, puis que je me fasse cogner le front avec une tonne de briques. Dire, non, c'est pas à cause que tu es bon que tu peux servir Dieu. C'est pour sa gloire, pour que à chaque fois que... Puis souvent, on voit du monde en avant, puis on dit, j'aimerais ça être capable de faire ça, j'aimerais ça être capable de faire ça, j'aimerais ça. Non, toi, dans ce que tu es capable de faire, est-ce que tu dis merci Seigneur? Est-ce que tu donnes gloire à Dieu parce que il te permet d'accomplir des choses, aussi minimes que ça peut être? Des fois, on se dit, mais lui, il fait des grandes choses. Oui, mais grandes choses, c'est quoi? Comment tu mesures une grande œuvre d'une petite œuvre dans le corps de Christ? Je veux dire, est-ce que ton pancréas, il est moins important que ton petit doigt? Est-ce que ton front, il est moins important que ton gros orteil? Je veux dire, comment tu mesures le corps? Dieu a donné une fonction à chacun pour que quand tout ensemble, ça fonctionne bien. C'est pour sa gloire. Et maintenant, l'attitude dans le service, on va aller dans Romains. Romains 12 et verset 7. Il dit, « Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Ici, je le vois détailler certains dons, puis avec une certaine attitude de le faire. Mais je vois aussi au travers de ça que c'est pas juste, si tu exhortes, faut que tu t'attaches à ça, mais c'est pas nécessairement qu'il faut que tu le fasses avec joie, parce que, tu sais, le joie, ça vient plus tard pour ceux qui font miséricorde. Non, c'est toutes des caractéristiques de l'attitude qu'on devrait avoir quand on exerce nos dons. Et le premier, l'attachement. Vous savez le gros mot là, que personne aime? Engagez-vous. Engagez-vous. Non, je l'utiliserai pas, OK? Attachement. Et j'aime ce mot-là, attachement. Parce que le titre, c'était quoi? J'aime mon Église, donc j'aime servir. Que celui qui sert s'attache à son service. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui t'a pogné là puis qui t'a attaché après ton service là, puis là il t'oblige à le faire puis non, je me suis attaché à mon service. Ce que Dieu m'a donné de faire, j'aime ça puis je veux continuer de le faire puis je veux persévérer même si des fois ça va mal, même si des fois je suis découragé, même si je veux continuer à faire ça parce que j'aime ça, parce que je me suis attaché à cette œuvre-là que Dieu m'a donné de faire. Et par l'enseignement, l'encouragement, ces choses, attache-toi à ton service. Et de plus en plus, le monde ne veut pas, tu sais, s'engager, mais autant dans le mariage, ils ne veulent pas s'attacher à une autre personne. Mais c'est l'attachement à une autre personne, c'est pas, bon, ben Mélanie, je t'ai marié parce que je n'avais pas le choix. Grosse déclaration ce matin. Non, je veux dire, je me suis attaché à elle tellement que je voulais rester attaché. Puis le ministère, le service pour Dieu, c'est ça. Je sers le Seigneur, je le glorifie au travers de ce que je fais, puis par sa force, par ses... Et cet amour-là pour faire ce que Dieu veut que je fasse, je ne peux pas faire autre que de m'attacher à ça. Puis ça, c'est, je veux dire, vous demandez à n'importe quel responsable de ministère, puis... Il aimerait tellement ça, avoir quelqu'un qui s'attache au ministère. On parle nous autres, on est directeurs de camp. Puis, je veux dire, ça, depuis quelques années, on en a qui se sont attachés au ministère du camp Joie de vivre. Puis, à chaque année, ils reviennent. Puis, quand on a des activités, des fois même, ils reviennent, ils font le voyage. Dieu, il les a fait aimer le ministère, le service qu'ils accomplissent. Puis, ils veulent s'attacher à ça, continuer de faire ce travail-là. Est-ce qu'on s'attache? Bien, la première condition pour s'attacher à son service, c'est d'aimer servir. Sinon, c'est dur de s'attacher. Libéralité. Il dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Mais libéralité, je veux dire, c'est une générosité. Et je le vois aussi dans le service, que ce soit, peu importe vos dons. Je veux servir le Seigneur. Je vais aller aider mon frère à déménager. OK, je te donne 5 minutes, je monte une boîte, puis après ça, je m'en vais. Non, je veux dire, quand tu veux servir, tu te donnes. Je vous appelle, je vous exhorte à par les compassions, de vous offrir vos corps en sacrifice vivant pour Dieu. On s'offre, on se donne. Ouais, mais là, ça c'est la grosse mentalité, là. Ouais, mais là, la première personne à qui il faut que tu penses, c'est toi. Faut pas que tu te brûles, faut que tu fasses attention à toi, faut que tu veilles, si tu te donnes trop, là, tu pas... Ben, je suis encore là. Combien de fois j'ai été brûlé, puis sur le bord d'être épuisé? Dieu me relève, c'est par sa force qu'on agit. Libéralité, que ce soit avec notre argent, quelqu'un qui a le don de donner, le don de libéralité, il va donner même sans regarder, puis des fois, le monde va dire, ah ben là, tu donnes bien trop, là, tu vas avoir de la misère à arriver à la fin. Non, Dieu va pourvoir. Que ce soit dans n'importe quoi, si je fais quelque chose à son service, je sais que si c'est la volonté de Dieu, Dieu va pourvoir après, que ce soit pour la force, que ce soit pour la santé. Dieu va prendre soin de moi si c'est lui qui m'appelle à faire ce qu'il m'appelle à faire. Le zèle. Que celui qui préside ici le fasse avec zèle. Dieu veut qu'on soit enthousiaste, aller de l'avant dans notre service. Que ce soit le travail, que je veux dire, que ce soit de mopper le plancher, Dieu veut qu'on le fasse avec zèle. Pas dire, ah, je lave le plancher, mais il va être sale la semaine prochaine. Je veux dire, ça, je veux dire, je lève mon chapeau à ceux qui font le ménage. Tu fais ça, puis tu le refais, puis tu le refais, puis tu le refais, puis le plancher, il n'est pas plus brillant 10 ans après parce que tu l'as lavé. Je veux dire, tu le laves, puis tu le laves, puis tu le laves. Mais c'est un service pour Dieu, si c'est un service pour Dieu, puis tu le fais avec zèle, par amour pour tes frères et sœurs qui viennent ici. Je veux dire, ça compte autant que le gars qui est en avant puis qui enseigne. C'est un service dans le corps de Christ. Le zèle dans notre service, est-ce qu'on fait nos choses avec zèle ou à moitié, on va le faire, là, puis ça va être beau comme ça, là. C'est pas ma cuisine, après tout. Hein? Ça, c'est la pire. En étant au camp, des fois, on fait des corvées. Puis la pire phrase que j'entends, c'est « Ah, c'est beau comme ça, c'est juste un camp. » Ça me donne l'urticaire. On travaille pour Dieu. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et dernièrement, la joie, celui qui fait miséricorde, le fasse avec joie. C'est-tu plate servir le Seigneur? C'est-tu plate? C'est-tu décourageant? Non! Faire avec joie. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on avait moi et ma maison, nous servirons l'Éternel de graver dans les marches chez nous. Puis ça a été, mes parents, ils nous ont emmenés toute notre enfance. Ils nous ont impliqués à servir le Seigneur. Puis pendant que je préparais mon message, j'essayais de me souvenir un peu de mon enfance. Vous savez quoi? Les souvenirs les plus vivides qui revenaient dans ma mémoire, c'était même pas nos voyages en Floride, c'était même pas toutes les affaires qu'on a faites d'extraordinaire, là. Les souvenirs que je pouvais vraiment me souvenir vividement dans ma tête, c'était les fois qu'on avait fait des choses au service du Seigneur, des chorales, des camps, les fois qu'on avait construit, quand on avait rénové. Clair dans ma tête, on était dans pile de briques, moi, puis je me rappelle plus toutes, là. Mais moi, on avait toutes des vieilles briques qu'il fallait nettoyer avec le pic puis le marteau. Puis quand on posait les luminaires, puis là, j'étais tout petit, puis on ouvrait les boîtes pour pouvoir sortir les néons de ça. Ces souvenirs-là sont là dans ma tête, puis sont marqués. Ça a marqué parce que j'étais au service de Dieu, même en tant que tout petit. Parents, à quel âge que vos enfants faut qu'ils commencent à servir le Seigneur? Y a-t-il un âge? Servez le Seigneur en famille. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez donner à vos enfants. De vivre cette joie-là de servir le Seigneur. Faites-le avec joie. Pas en murmurant. Il parle plus haut de ceux qui exercent l'hospitalité, de ne pas le faire en murmurant non plus. Il y a plein de manières de servir Dieu. Nommez-moi le nombre de personnes qu'il y a ici. Vous pouvez tous avoir une manière différente de servir Dieu. Puis de le faire avec joie. Verset 11 du chapitre 12, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Si vous êtes de nature paresseuse, ça peut être plus dur. Si vous êtes de nature plus énergique, ça peut être plus facile. Il y en a qui ont besoin de coups de pied dans le derrière d'un bord, il y en a qui ont besoin de coups de pied dans le derrière de l'autre. Mais la consigne de base, servez le Seigneur. Soyez pas paresseux. C'est tellement facile de venir, de dire juste « je viens à l'Assemblée, puis j'assiste, je profite de l'Assemblée ». Je viens ici parce que j'entends un bon message, j'entends des bons cantiques, puis ça me fait du bien. Non, le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de vous faire du bien. C'est de faire du bien aux autres. C'est ça le but de la vie chrétienne. Servez le Seigneur. Où est-ce que j'en suis? Je n'aime pas mon Église, donc je n'aime pas servir. Savez-vous que ça peut arriver? Si vous avez grandi d'une famille chrétienne, puis vos parents, ils vous tirent à l'Église par le bras, puis ils disent « viens-t'en », puis ils disent « Non, j'aime même pas ça, aller là. » Alors, viens servir le Seigneur, penses-tu? Pas plus. Peut-être même que c'est à cause que vous avez de l'amertume. J'aime pas mon Église. Penses-tu que je vais servir? Je vous demanderai de retourner à case départ. Message de l'Évangile. L'importance que, je veux dire, dans votre ADN de chrétien, l'amour est là. Puis vous l'avez écrasé, vous l'avez enterré par toutes sortes de pensées mauvaises, d'amertume, puis ces choses-là. Revenez au message de l'Évangile, revenez, redécouvrez votre premier amour. Retourne là où tu es tombé, puis reprends tes premières œuvres. J'aime pas mon Église, mais je sers quand même. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut très bien. Il y a plein d'affaires là, qui font là, que je ne suis pas d'accord, là, mais je veux dire, je vais continuer de servir là, parce que là, moi, c'est ça que je fais. Je sers, là, puis même si ça va mal, là, je sers. L'attitude. Quelle attitude que j'ai en service? Vous savez, l'amour a fait quoi? Elle couvre une multitude de fautes. Si vous avez vraiment l'amour de Dieu en vous, vous êtes capable de passer par-dessus. Peut-être les différences, les divergences d'opinion. Puis de servir Dieu, pas parce que là, c'est ça qu'on fait là, dans l'Église, il faut faire ça. Là, puis il n'y a personne d'autre qui le fait, fait que je vais le faire. Servir Dieu parce que vous l'aimez. Servir les uns les autres parce que vous les aimez. Servir l'Église parce que vous aimez l'Église de Dieu, le corps de Christ, l'ensemble de tous les frères et sœurs ensemble. J'aime mon Église, mais je n'aime pas servir. Ça se peut-tu, ça aussi? Ah, oh, j'aime bien ça, l'Église, mais c'est pour moi. Ce que je retire, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Église, c'est qu'on vient ensemble pour s'édifier soi-même. Que ce soit avant, après, pendant la semaine, l'Église est là pour que chacun, les uns les autres, on s'édifie. C'est pas le pasteur, l'ancien en avant qui construit l'Église. C'est les uns les autres qu'on se construit, les uns les autres, pour grandir. Et là, le verset qu'on a lu tout à l'heure revient. « Ayez du zèle et non de la paresse. » Souvent, on a cette petite paresse qui est là, qui dit « Ouais, ben, ça me tente pas, moi, de me déranger un peu, là. Je suis bien chez nous. J'ai ma petite routine, mes petites affaires que je fais. » Ouais, mais tes petites affaires que tu fais, est-ce qu'ils comptent pour l'éternité? Est-ce qu'ils comptent dans la vie d'un autre frère? Servir le Seigneur. J'aime mon Église, mais elle m'oblige à servir. Je l'aimerais mieux si elle ne m'obligerait pas. Ça se peut-tu, ça? Qu'on ait cette attitude-là? On se sent comme obligé, là, parce que là, ils ont appelé Gabriel Paquin de la Gaspésie pour venir nous parler de service. C'est parce que là, ils veulent nous tordre le bras un peu, là, qu'on puisse servir. C'est quoi notre attitude dans le service? Souvent, on se sent pris, mais c'est pas la loi de dire « je sers, je sers, je sers ». Puis le remède à ça, c'est « j'aime mon Église, donc j'aime servir ». Souvent, on se sent obligé parce qu'on n'aime pas ça. Mais si tu aimes servir, si tu découvres cet amour-là de servir le Seigneur, je veux dire que ce soit de laver les toilettes à brosse à dents, ça va te faire plaisir de le faire pour le Seigneur. Pas parce que quelqu'un d'autre te le dit. Dieu veut qu'on le serve. Et des fois, il peut nous faire passer par toutes sortes de chemins, de services. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la même chose toute notre vie. « Oui, mais j'aime mon Église, mais je ne peux pas servir. » On en a déjà parlé. Pourquoi tu ne peux pas? Tu n'as pas la capacité? Tu n'as pas la force? Il y a tellement de variétés de services, de manières de s'impliquer que chacun d'entre nous, peu importe notre faiblesse, peu importe même dans maladie, même dans n'importe quoi, on peut servir le Seigneur d'une manière quelconque. Puis savez-vous que de prier pour les frères et sœurs, c'est un service? Puis ça compte. Puis peut-être Dieu vous a mis dans une situation difficile où ce que vous êtes au lit pendant des semaines, puis vous dites, oh, je peux pas servir le Seigneur. Mais peut-être que votre service pendant ce temps-là, c'est la prière de vous tourner vers Dieu puis d'intercéder pour vos frères et sœurs. Il y a toujours, toujours, toujours un moyen de servir le Seigneur. Peu importe la faiblesse, parce que c'est pas avec notre force, c'est avec la sienne. J'aime mon Église, donc j'aime servir. Et c'est la situation que j'aimerais qu'on soit tous. Je veux servir, je veux être actif à son œuvre, il m'a tellement donné que je veux redonner à mon tour. Il m'a tellement aimé que je veux aimer à mon tour. C'est ma prière qu'on puisse être de ces gens-là. Des fois, ça ne m'arrive pas toujours d'aimer servir, mais de se rappeler qu'on fait ça pas pour bien paraître, pas pour acquérir des richesses, pas pour gagner des années de moins au purgatoire. On fait ça parce qu'on aime notre Seigneur. On fait ça parce qu'on s'aime les uns les autres. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier parce que tu as choisi de nous utiliser. Seigneur, quoi de plus réconfortant que de se sentir utile. On n'est pas juste là pour respirer de l'air, Seigneur. Tu nous as placés pour qu'on puisse être utiles les uns aux autres, qu'on puisse servir, qu'on puisse avoir un but. Seigneur, tant de personnes dans le monde cherchent un but à la vie puis ne le trouvent pas. Puis Seigneur, tu nous donnes une vie qui peut être remplie de buts, remplie de toutes sortes d'aventures, de péripéties, Seigneur, à ton service. Mais Seigneur, tu veux seulement qu'on soit disponible, comme c'est dit dans ta parole, qu'on s'offre nous-mêmes en sacrifice vivant, Seigneur, à ton service. Donne à ton chaque membre, Seigneur, de ton Église, de voir, Seigneur, ce privilège qu'on a de voir cette unité, cet amour qui peut régner dans ton corps, Seigneur, puis qu'on puisse embarquer, qu'on puisse s'attacher à ton service. C'est au nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen.